Un, deux, oui, ça marche. Alors, ce message de ce matin, en fait, il est peut-être inspiré, vous le verrez bien, mais c'est un ordre que j'ai reçu, je dirais pas, enfin oui, pour ce matin, parce que nous avons eu l'Assemblée générale hier, nous avons vécu un très très bon moment. Et nous sommes contents de ce qui se passe dans l'Église ici. Et cette bonne nouvelle du pasteur Timothée Mina qui va venir, qui va certainement être une bénédiction pour l'Église. En tout cas, Joël et moi, nous y mettons toute notre foi et notre confiance dans le Seigneur là-dedans. Et donc, Joël m'a dit il y a quelque temps, quand il a préparé l'Assemblée générale, oui, mais pour l'avenir avec ce pasteur. Nous ne voulons pas dilapider les fonds que l'Église a comme réserve, ou, on ne sait pas ce que l'avenir verra. Et donc, on a constaté que... Il manque un peu de sous pour payer le salaire du pasteur, si on ne veut pas puiser dans les réserves. Parce que là, vous aviez la joie d'avoir deux pasteurs heureux retraités qui ont une retraite, faisant partie de ces bienheureux retraités qui ont une retraite suffisante pour vivre. N'est-ce pas? C'est quand même pas mal d'avoir une retraite suffisante pour vivre. Tout le monde n'a pas ça. Alors donc, c'était bien, l'Église a... n'avait pas de salaire à payer, etc. Voilà. Maintenant, on a même mis José en grande partie à la retraite pour un petit peu encore soulager l'équilibre des comptes. Oui, aussi parce qu'il a l'âge. Hein. Voilà. Et voilà. Et alors donc, ce matin, je vais vous amener un message sur ce que l'Église va devoir faire, ce côté, alors, du côté matériel pour pouvoir maintenir la bonne marche de l'Église et il faut augmenter un petit peu nos rentrées financières. Alors, je ne vais pas prêcher sur la dîme, oui aussi, mais le titre de mon message, c'est La gestion biblique de mon argent. Alors, j'ai mon manuscrit, il vaut ce qu'il vaut parce que je l'ai pas, il n'y a pas la mise en page, il n'y a pas tout ça. Mais vous pouvez le distribuer, peut-être, elles sont là, les feuilles, et vous allez pouvoir, comme ça, en même temps, partir avec les notes de ce message. Et en préparant ce message, je crois que le Seigneur veut vraiment parler à son Église. Alors, je dois aussi dire, quand on a été 45 ans pasteur, non, pas, c'est marié que j'étais 45 ans, pasteur, c'est un peu moins. Voilà, enfin, bref, on a déjà prêché, cela dit, mais j'ai revu sur Internet un pasteur allemand qui a écrit justement ça, et c'est de lui que j'ai cette idée, gestion biblique de mon argent. Et il a écrit un bouquin que Anne m'a gentiment offert, ah ben, ma femme, et dont j'ai pris quelques idées de ce livre. Voilà, je vous dis tout de suite, s'il y a des belles révélations dans cela, ce n'est pas sûr qu'elles soient venues de mon inspiration personnelle dans la grâce que le Seigneur m'a faite, mais c'est parce que j'ai trouvé des bonnes idées. Voilà. Et donc, et quand j'ai lu ce livre, je me dis, il y a tant de choses qu'il faudrait que je dise. Alors, comme je ne savais pas trop quoi sélectionner, j'ai sélectionné beaucoup de choses. Alors, vous savez, quand on veut préparer une prédication et que ce soit... Alors, vous lirez après, hein? Vous lirez après. Voilà. Ça y est, vous avez la curiosité qui a été éveillée, là. Donc, j'espère avoir sélectionné les meilleures pensées. Alors, nous allons suivre ce plan. Et, chers frères et sœurs, à la fin de ce culte, soit vous avez préparé les œufs couvés et les tomates que vous pourrez jeter, hein, sur l'humble serviteur que je suis, soit vous me direz Amen, maintenant ça va révolutionner ma situation financière de ma famille, de mon budget, parce que maintenant je vais mieux respecter ce que dit la parole de Dieu.
Amen.
Oh, ça commence bien, hein? Ça commence bien. Billy Graham a dit, ça je l'ai du bouquin, je ne le savais pas, hein? Notre compte bancaire est un document théologique, il montre qui a la première place dans notre vie. Alors, le document théologique de votre vie, chers frères et sœurs, il se voit dans votre relevé bancaire mensuel que vous regardez. À bon entendeur, salut. Alors la question qu'on peut se poser aussi maintenant quand on pense à tout ça, pourquoi la relation avec l'argent est-elle si importante pour Dieu? N'est-ce pas une affaire privée? Le plus important, c'est Jésus et pas notre argent. Alors il faut dire pourquoi c'est si important pour Dieu. Je vois que j'ai la référence un peu plus loin. J'ai découvert aussi, savez-vous que dans cette belle Bible que nous avons tous, il y a plus de versets qui parlent de l'argent et de ma gestion et de mon comportement et tout cela avec l'argent que de l'amour. Eh oui, c'est 1000 versets, vous pouvez trouver, qui parlent d'argent dans la Bible. Ça veut dire que pour Dieu, c'est important et nous allons le voir effectivement, et nous le savons déjà, remarquez, hein, que voilà la manière dont nous allons gérer les choses. Alors, après, je voudrais poser en début 5 questions. Dois-je donner ma dîme? Point d'interrogation. Ai-je le droit d'être riche en tant que chrétien? Je vais vous dire, j'aimerais bien. L'argent compte-t-il vraiment pour Dieu? Suis-je avare? Était-ce une coïncidence si Judas, le disciple chargé de gérer les finances, était aussi celui qui finalement a trahi Jésus? On continue maintenant quelques principes du royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a le principe de donner, je l'ai même mis à l'envers, de recevoir et donner, qui exprime notre confiance au Seigneur. Acheter et vendre. Et là, le monde vit comme cela, acheter et vendre. Et on vit dans la crainte. Notre attitude de chrétien doit être la foi et non la peur concernant nos finances. Alors maintenant, nous arrivons à ce point. L'argent est une question importante dans la Bible. Comme je vous le disais, plus de villes, le premier thème dans la Bible, c'est paradoxalement la gestion des finances ou a un rapport avec la manière dont l'être humain se comporte par rapport aux finances. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un proverbe qui, lui, pour le coup, est païen, quand on parle du nerf de la guerre, n'est-ce pas? Hein? L'argent est le nerf de la guerre, dit-on comme ça dans le langage. Près de la moitié des paraboles de Jésus parle de responsabilité dans les gestions des finances. Jésus en parle directement et il y a par exemple, une parabole qui est très connue, la parabole des talents, qui est assez spécifique. À ce sujet, il faut savoir, le talent n'était pas une monnaie ni une qualité qu'avait l'individu, le talent était une mesure. Et donc, c'était. Et selon la mesure que l'on utilisait, on pouvait dire elle est d'or ou d'argent, etc. Donc, ici, on voit quand Jésus donne cette parabole des talents, il ne parle pas seulement de petites pièces. Après, on peut lire déjà quelques versets. Luc 16 dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Puis dans Matthieu 15, 25-21, son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que le Seigneur dira à chacun d'entre nous quand un jour nous serons devant lui, que j'aimerais qu'il puisse me dire ça. Et nous dire ça à tous. Alors maintenant, je veux aussi encore, là, on est là un petit peu des points qui sont importants mais qui ne sont pas fondamentaux, enfin, qui sont des principes plutôt. J'aimerais parler sur quatre arguments trompeurs que l'on entend par des gens qui ne veulent pas donner au Seigneur ce qu'il devrait donner. Dieu regarde mon cœur. Pas comment je gère mon argent, il y en a qui disent. Je ne sais pas si quelqu'un vous a dit ça. Et là, nous avons une réponse de Jésus. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme la foule, comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors, je m'imagine la scène. Jésus est là, il regarde. Nous, on fait passer les corbeilles, personne ne voit ce que. Hein, on devrait mettre un tronc là, et puis Jésus regarde. Ah, comment il met lui. Et quand il a vu que la petite retraitée qui n'a pas beaucoup de sous, qui ne joint difficilement les deux bouts, il s'élève et dit, hey, les disciples, venez voir celle-là. Savez-vous que c'est elle qui a donné le plus? Parce que. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. La deuxième chose, c'est, je sais que je dois donner, mais peu importe combien je donne. Et là, nous avons un verset dans Jacques qui nous corrigera peut-être dans ce domaine. C'est pas peu importe combien je donne, mais quand on regarde l'épître de Jacques, c'est, si un frère ou une sœur sont nus, bon, il n'y a personne ici comme ça, merci Seigneur, hein, et manquent de la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui est le besoin, comment je dois aider. Ici, entre autres, hein, veut dire Jésus. Après, il y a encore un autre argument trompeur, avoir des dettes, ce n'est pas grave. Alors, évidemment, si on parle comme ça, tous ceux qui ont acheté un appartement ou une maison, ils ont une dette, hein? Mais ce n'est pas de cette dette-là qu'on parle, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est une façon de payer un loyer, avec la différence, c'est qu'à la fin, eh bien, on est propriétaire d'une maison, hein? Voilà. Mais c'est pas de ce. Alors, je dis ça tout de suite pour pas qu'on dise, ça y est, on ne peut plus maintenant emprunter, voilà. Non, non. Mais il y a des gens qui s'endettent beaucoup et qui vivent mal. Alors, avoir des dettes, ce n'est pas grave. Eh bien, nous avons dans Proverbe 22,7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Après, notre argument, Dieu a promis qu'il pourvoira, alors je n'ai pas besoin de me faire du souci. Proverbe 10,4 nous dit, par contre, celui qui amasse pendant l'été est un homme prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et donc, nous avons ici des arguments que je voudrais un peu démolir avant pour que nous arrivions après à comprendre ce que Dieu veut de nous. Parce qu'à la fin de ce message, j'aimerais que vous sentiez dans votre cœur, voilà ce que je devrais faire pour que le Seigneur puisse me bénir pleinement. Parce que le but, c'est ça, hein. Et il faut le voir. Dans toute la Bible, quand Dieu a demandé à quelqu'un de faire quelque chose, ça a toujours été pour le sortir, pour le bénir, pour l'élever, pour qu'il soit libéré. Même si parfois, ça passe, comme on dit en langage populaire, par le coup de bistouri du chirurgien, n'est-ce pas? On peut guérir miraculeusement, hein, quand moi j'ai eu l'appendicite, mon appendice était sur le point d'éclater. On a peut-être prié pour moi, mais heureusement qu'il y avait le chirurgien pour enlever ce petit morceau. Hein. Voilà. Et le Seigneur a conduit la main du chirurgien, c'est ça qui est bien. Alors maintenant, il y a quelques pensées sur que j'ai qu'on a que, qui sont intitulées ici, c'est l'affaire comment bien gérer. La Bible nous demande de bien gérer nos finances. Il y a un texte dans, le Deutéronome. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Éloigne de moi, ça c'est une prière qu'on retrouve dans les proverbes, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom du Seigneur. En fait, ici nous avons quelques principes sur la manière dont nous pouvons, dont Dieu conseille. Hein. Là, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je voudrais avancer étant donné que nous avons beaucoup de choses à voir. Ensemble, c'est pour ça que je vous donne mon manuscrit pour que vous puissiez après vous rappeler de tout. Alors, il y a tout un passage ici sur comment gérer son argent. On va commencer par quelques versets qui nous parlent justement de la manière dont la Bible nous dit comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos moyens. 1 Timothée 6, 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège d'un beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Matthieu 6, 24. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Car ou bien tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou bien tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre, vous ne pouvez servir mammon. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. L'argent peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Dieu ne cherche pas ton argent, mais il veut ton cœur. Ça, nous le lisons dans Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alléluia, il y a dans la communauté chrétienne du point du jour aucun pharisien et aucun hypocrite. Donc je peux lire le reste. Hein. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Ce verset va revenir quand nous allons parler de la dîme dans le Nouveau Testament. Et maintenant, j'aimerais donc... on va peut-être passer ce passage du travail. Et maintenant, nous allons voir les trois principes fondamentaux qu'on trouve dans la Bible avant la loi. Seulement, ça va apparaître quelque part un peu plus tard, pour information. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek 500 ans avant que la loi de Moïse n'apparaisse. Et c'est là qu'on regarde, quand on regarde la Bible, on trouve trois fondements bibliques, fondements de la vie qui sont encore aujourd'hui pour nous, avant la loi de Moïse. Le premier, c'est le sabbat. On lit dans Genèse, Dieu se reposa le jour du sabbat. Deuxième, c'est le mariage. L'homme quittera son père et sa mère. Hein. D'être fidèle à son conjoint, ça ne vient pas de la loi, c'était déjà avant. Hein? Et puis la dîme, avec Abraham, qui a donné sa dîme 500 ans plus tôt. Nous allons revenir un petit peu là-dessus dans quelques instants. Alors maintenant, faut-il donner sa dîme? Voici la réponse. Elle sera une réponse de Normand, que je vous donne moi. Hein. Les uns disent oui, les autres disent non. Là, je n'ai contrarié personne, pour l'instant encore. Alors maintenant, nous allons peut-être nous voir un petit peu cette histoire de la dîme avant la loi de Moïse. Donc il y a deux hommes qui ont donné leur dîme, des riches, très riches, qui ont donné leur dîme avant la loi de Moïse, avant que ce soit un ordre, un commandement incontournable, ce sont Abraham et Jacob. Alors nous allons lire le passage parce que ça va peut-être un petit peu, là maintenant, nous aider un petit peu à comprendre certaines choses. Melchisédek, roi de Salem, donc Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Alors, quand on regarde d'autres passages, du coup, dans le livre de Samuel, par exemple, on voit que cette façon d'apporter du pain et du vin était une manière culturelle de recevoir les gens. Hein? Ça se faisait. Mais le pain et le vin, quand même, c'est pas anodin, nous allons le voir un peu plus tard. Et Abraham, alors Melchisédek bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc ça c'est le passage que nous reverrons dans l'Épître aux Hébreux un peu plus tard. Mais déjà, ici, dans ce passage-là, je voulais seulement que nous voyons que la dîme a été donnée par Abraham avant. Et ensuite, ah, je ne l'ai pas mis dans ce verset, c'est un peu plus loin, d'accord. Ensuite, il y a Jacob 28, 20. Alors, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Là, j'ai pris que les extraits, vous pourrez regarder chez vous le contexte, et ici on voit donc Jacob qui... Comment ? Jacob, donc, qui a automatiquement a donné sa dîme, avant la loi. Il n'était pas obligé, apparemment. Mais on ne sait pas d'où ils ont eu cette idée, quand même, Abraham et Jacob. Hein. Mais apparemment, c'était une pratique. Nous verrons après, tout à l'heure aussi, quand nous parlerons un petit peu, dans justement ces deux passages que je vous ai nommés ici, nous allons aller voir... Justement, dans mon argumentation pour dire, oui, la dîme est toujours d'actualité pour l'Église et pour les chrétiens du XXIe siècle. Là, je vais déplaire, mais il faut bien qu'on se souvienne de quelque chose de ma prédication, n'est-ce pas? Alors, donc, nous avons ici dans cette réalité. Maintenant, j'aimerais lire quelques versets, la dîme sous la loi. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton moût, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Peut-être lorsque l'Éternel était ton Dieu, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme ? C'est incroyable, ça. Je me suis dit, Dieu prévoit même que tu vas être tellement béni que tu ne vas pas pouvoir transporter, parce qu'à ce moment-là, évidemment, c'était avec la dîme des récoltes. Hein. Alors, si c'est trop comme ça, eh bien, Dieu dit, alors à cause de ton éloignement, le lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras la porter à l'église, au lieu que l'Éternel a décidé. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut quelque chose de sa dîme, alors on pouvait racheter sa dîme, mais alors il fallait rajouter un cinquième. Hein? Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Et maintenant, encore un verset à l'Odon. C'est seulement, je vous donne ici un peu un aperçu de l'exigence divine par rapport à la dîme du temps de la loi. Là, on est sous la loi, là. Il n'y a pas le choix. Alors, il y a Malachie. Malachie qui est un de ces passages que l'on connaît le mieux, parce qu'il est très fort, ce passage. Est-ce qu'un homme, trompe-t-il Dieu ? Alors, les traducteurs disent, le mot peut vouloir dire... Vole-t-il Dieu ou ment-il à Dieu? On ne sait pas. Enfin, c'est un mot un peu compliqué. Je ne suis pas assez érudit en hébreu pour vous donner le sens juste. Mais ici, c'est trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Eh bien, Dieu dit au peuple, dans les dîmes et les offrandes. Et là, Malachie, c'est ça qui fait un peu choc. C'est non seulement la dîme. Mais en plus, il y avait des offrandes. Aïe, 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 hein? Bon, aujourd'hui, on sait à quoi servaient les offrandes, n'est-ce pas? Il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas le chômage, il n'y avait pas tout ça, et les gens étaient très pauvres, et donc ils avaient besoin. Le temple organisait en partie les offrandes, d'autres étaient au coin de rue, ça, nous l'avons régulièrement aussi. Et vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Ici, ce passage est aussi important, c'est, il semblerait, d'après ce que je disent les exégètes, le seul passage de la Bible où Dieu dit à son peuple, faites un test avec moi. Parce que je trouve que c'est osé. On va bien voir si c'est vrai ce que dit Dieu. C'est le seul endroit où il nous autorise. Bon, après, il y a encore d'autres versets dans l'Ancien Testament, Psaume 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de goût. Et là, maintenant, on arrive où je voulais en venir. Il faut que je fasse attention parce que le temps passe vite. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était donc, pour donner un peu un aperçu, j'espère que ça a été assez clair pour vous et que vous saisissez un petit peu ce message dont parle la Bible. Parce que c'est important, chers frères et sœurs, que, à cause des abus, je sais, il y a des abus partout, il y a des églises qui ont exagéré, nous avons aussi, c'est pour ça que nous sommes protestants, hein, puisque au moment de la réforme, pour construire le Vatican, les ambassadeurs du Vatican allaient dans toute l'Europe, ils disaient, lorsque la pièce de votre défunt saute lorsque la pièce tombe dans la boîte, l'âme de votre défunt saute du purgatoire dans le ciel, alors que le purgatoire n'existe pas. C'est ce qui a mis un théologien qui était un professeur de théologie qui enseignait les prêtres et formait les prêtres en Allemagne, monsieur Martin Luther, et c'est là, et au début, avec l'accord même du pape, en disant, oui, il faut qu'on corrige un petit peu ça, on va trop loin, mais après, bon, il y a eu des problèmes, c'est que du coup, l'argent ne rentrait plus assez pour construire le Vatican, et donc ça a causé ce qui est arrivé, on a dit à Luther, bon, t'arrêtes, bibliquement, t'as raison, mais là, nous, on a besoin de cet argent. Et donc, c'est comme ça que, en fait, le protestantisme est né. Luther ne voulait pas faire une autre église, mais la situation a fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, c'est important que nous voyons les choses, c'est que le but, c'était, il y a eu, on a exploité la crédibilité des gens. Et il n'y a pas que l'Église catholique qui a fait ça. Même dans certaines églises, moi, il y a certains prédicateurs américains qui viennent avec des théologies où, vous savez, la théologie, j'ai étudié ça, ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Alors, en fait, ils sont malins, ceux qui prêchent la prospérité, de la théologie de la prospérité. Parce que c'est vrai que c'est fondamental. Là, il n'y a pas photo dans toute la Bible, c'est si vous donnez à Dieu, vous serez béni. Si vous ne donnez pas à Dieu, vous aurez des problèmes. Ça, c'est un message très clair. Le problème, c'est que ces bons prédicateurs de la théologie prospérité, ils disent, si vous donnez à moi, vous avez donné à Dieu. Et c'est ça. Et si quelqu'un vous dit, si vous donnez à moi, si ce matin je viens vous dire, si vous donnez à moi, ah oui, moi je saurais quoi faire, hein. Je viens de recevoir un appel du Pakistan, ils ont besoin de, ils me demandent 1000 euros, après l'Afrique me demande tout le monde, enfin, parce qu'ils savent que, voilà, et tous les pasteurs, on est tous à la même enseigne, on est toujours sollicités. Mais si je vous dis, donnez à moi, c'est pas bon. Par contre, si je vous dis, qu'à vous, dans votre foi, dans votre communion, vous avez compris que vous devez donner quelque chose à Dieu parce que ça fait partie de ce qui lui appartient et ça fait partie de l'outil de bénédiction du Seigneur, alors vous serez bénis. Ça, c'est important qu'on le voit. Donc maintenant, j'aimerais donc que nous arrivions à ce moment où nous allons considérer justement pourquoi est-ce qu'on peut dire que la dîme est aussi un principe du Nouveau Testament? Le premier, nous l'avons vu tout à l'heure, quand Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, parce que vous êtes très rigoureux dans la dîme. Alors il aurait dû dire, bravo! Vous donnez bien votre dîme. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament, c'est que la dîme ne va pas acheter Dieu. C'est-à-dire que la dîme n'exclut pas l'obligation de se comporter comme un vrai chrétien. Et ici, c'est ce que Jésus reproche justement aux scribes et aux pharisiens, qui étaient très bien. Alors là, il faut dire, du temps des scribes et des pharisiens, il n'y avait pas de problème de déficit dans l'Église. Il y avait ce qu'il fallait. Mais ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais bien que vous compreniez ce que j'ai dit dans le début. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas notre argent, c'est notre cœur. Et là, Jésus confirme la chose. Il dit, vous allez jusqu'à demander la nette. C'est très bon la nette, hein, le poisson, hein, quand vous faites un saumon avec une sauce à la nette, c'est très bon. Hein, ou le persil, on pourrait dire, nous. Hein, mais vous allez jusque-là. Et ils étaient rigoureux quand même. Hein. Je ne sais pas, moi, nous, on a là, j'ai planté dans un pot un peu de ciboulette et un peu de persil parce que j'aime bien. Ils allaient jusqu'à regarder, voilà, hein, 10%, c'est ça, hein, on va l'amener au temple. Hein. Ils étaient rigoureux, mais Jésus leur dit, ça c'est très bien. Il leur dit, il ne faut pas le négliger. Mais le plus important, et la tragédie qui fait dire malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous négligez la justice, vous n'êtes pas miséricordieux, vous n'avez pas l'amour que vous devriez avoir, vous abusez même de votre pouvoir. C'est plus important, dit Jésus. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, je vous dis tout de suite, je voudrais qu'après ce message, vous ayez tous envie de donner votre dîme. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est dans quel amour je vis. Dans quel... voilà. Ça, c'est la première chose. Et c'est là qu'on voit que Jésus est très clair par rapport à la nouveauté. qui est pour lui fondamental, c'est d'abord vivre comme un vrai chrétien. Quand tu critiques ton frère et ta sœur, quand tu ne pardonnes pas ton frère et ta sœur, quand tu mens, tu n'es pas un bon chrétien. Alors là, Jésus il te dirait, moi je ne le dis pas, hein, mais Jésus dirait, garde ta dîme, va d'abord pardonner. Ce n'est pas moi qui le dis ça, hein, parce que moi je préfère qu'on équilibre les comptes. Hein. Je ne voudrais pas me mettre en conflit avec le président du conseil et avec le trésorier. Le deuxième argument, qui me semble important, ah, c'est dans le bouquin que j'ai... j'avais jamais compris ça exactement comme ça, mais ce pasteur allemand, là, m'a inspiré, enfin, m'a éclairé, plutôt. Et nous allons lire cette histoire de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, et verset 1. Je l'ai là pas écrit, mais je vais le lire dans la Bible, dans ma Bible, que j'aime bien lire. Alors, en effet... Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Nous avons lu un extrait tout à l'heure. Hein. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Du coup, j'ai perdu la ligne. Hein. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, c'est-à-dire roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alors Melchisédek, ça veut dire roi de justice, et Salem, c'est le mot de Jérusalem, c'est une des premières mentions de Jérusalem, cette ville dont on entend beaucoup parler en ce moment, n'est-ce pas? Et on entendra encore. Et c'est intéressant ici, Melchisédek, on ne sait pas qui c'est ce monsieur. Je sais pas, j'ai pas encore lu de je sais pas, Joël, si tu as lu des théologiens qui sont pas chez eux, qui ont eu la révélation. On sait pas trop qui c'est, ce monsieur, Melchisédek. On sait qu'il a vécu bien avant Moïse et qu'il est, il n'avait ni, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Hébreux dit, considérez combien il était grand, ce monsieur à qui Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi... l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni, pas le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Or, il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Abraham? Car le sacerdoce étant changé, il a aussi nécessairement un changement de la loi. Or, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours ». Selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et donc ici, l'Épître aux Hébreux nous présente Jésus comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et dans cette argumentation, on voit que l'Épître aux Hébreux renouvelle cette idée que c'est bien d'avoir donné la dîme à quelqu'un qui était une haute personnalité. Et donc, ce que nous voyons ici, dans ce passage dans l'Épître aux Hébreux, c'est que l'Épître aux Hébreux ramène cette notion de donner sa dîme non pas comme une loi, parce que c'est tout l'argument ici, c'est au-dessus de la loi. Et en fait, ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ces choses, c'est que donner sa dîme, ce n'est pas une loi, et on ne devrait pas donner sa dîme pour obéir à la loi. Ça serait réduire la notion de la dîme. Je ne donne pas ma dîme parce que j'obéis, mais je donne ma dîme, et là, l'exemple d'Abraham et l'exemple de Jacob sont tout à fait choses, parce que Dieu m'a béni. Et que je reconnais que si j'ai aujourd'hui la possibilité de donner ma dîme, c'est parce que Dieu m'a béni. Et tout ce que nous avons, c'est Dieu nous a béni. En fait, il nous redemande 10% des 100% qu'il a donné. Voilà. Dieu, il est gentil, il t'en laisse 90%. Il ne demande que 10%. Mais c'est dur de donner ces 10%. Hein. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne peux pas, je peux pas donner ma dîme, je n'ai pas assez. Et là, il faut revenir à ce que je vous ai lu tout à l'heure, quand Jésus est devant le tronc, qui regarde, il voulait parler aux pauvres, tiens. Ah, si tu es pauvre et que tu dis, moi je suis trop pauvre, je ne peux pas donner ma dîme. Je n'arrive pas à joindre les fins de mois. Hein. Vous vous rappelez, pendant les Gilets jaunes, on a dit au président de la République, vous parlez de la fin du monde et nous on parle de la fin du mois. Hein. Elles ne sont pas toujours faciles ces fins du mois, n'est-ce pas? Quand j'étais petit dans mon village du sud-ouest de la France, on disait, à la fin du mois, on tire le diable par la queue. Hein. Bon, il ne faut pas tirer le diable par la queue, voilà. Alors donc, si, tu es comme ça, eh bien, je peux dire, Jésus a pensé à toi. Il raconte cette histoire de cette personne qui a donné de son nécessaire. Et ici, Jésus veut dire, tu n'as pas d'argent, donne ton nécessaire. Parce que comme ça, tu vas donner plus que les riches et tu vas être plus béni. Puis la deuxième chose, Jésus, il a encore pensé à quelqu'un d'autre, parce qu'il pense à tout le monde, lui. Hein. Là, j'ai un peu perdu mon truc, alors je vais vite. Il a aussi pensé aux riches. Alors, là, nous avons cette histoire, dans Matthieu 19. Vous la connaissez tous, hein, cette histoire. Et là, je dis... Après avoir pensé avec la petite veuve aux pauvres pour nous donner une consolation et nous donner un conseil. Maintenant, il parle aussi aux riches. Et nous avons dans Matthieu 19, au verset 16, vous connaissez l'histoire de ce jeune homme riche qui s'approche de Jésus et qui, il n'est pas sûr d'être sauvé. Ah, dernièrement, j'ai eu une communication avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est riche et qui a des doutes. Il a des confusions et tout ça. Ça peut arriver, ça. Donc, il a des doutes d'être sauvé. Et alors, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, Jésus ? Tranquillise-moi, là. Mets les choses au clair. Et puis, Jésus lui dit, tu observes les commandements. Puis, lui, il dit, mais lesquels ? Ben, tu ne tueras pas, tu commettras point d'adultère, tu ne déboiras point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a tout fait. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses qui me manquent, que me manque-t-il encore? Et là, Jésus, voilà ce qu'il dit aux riches. Vends de tes richesses et donne-le aux pauvres. Mes chers frères et sœurs, je parle sur le sujet la gestion biblique de mes finances. Si je suis pauvre, Jésus me dit, eh ben donne ton besoin, de ton nécessaire. Et si je suis riche, il me dit, donne tout, vide tes comptes. T'en as assez avec ta belle baraque à la maison. Ah là, on est mal, hein, chers frères et sœurs. Là, on est mal, hein. Il y a personne ici qui peut passer à côté de ce qui ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, avec ce passage de l'Épître aux Hébreux, nous voyons que l'Épître aux Hébreux remet la dîme non pas comme une obéissance à une loi, mais comme l'expression de l'amour que j'ai pour Dieu. Et puis aussi, je vais finir là parce que je vois que ça, donc je laisse un peu mes notes. La dîme, c'était de tous les prémices. C'est la première chose. Et Dieu dit d'abord au peuple, tu donnes d'abord la dîme et tu n'attends pas d'avoir un petit reste pour donner la dîme du reste. Il faut donner d'abord à Dieu. Nous, on fait le contraire, hein. On donne de nos restes. Dieu ne veut pas de tes restes. Dieu, il veut les prémices. C'est intéressant que l'Église est née à Pentecôte, et Joël vous l'a dit quand il a prêché sur Pentecôte, c'était la fête des prémices. On avait pris les premiers beaux fruits, la première récolte, et tout de suite, on est allé de toute l'Europe à Jérusalem pour apporter sa dîme. Et c'est là qu'est née l'Église. L'Église est née dans une fête qui était la fête de la dîme des prémices des récoltes. C'est tout un symbole, je trouve. C'est incroyable comment Jésus a bien choisi le jour, n'est-ce pas? Et donc, ce que nous voyons ici, la dîme ne doit pas être des restes que je donne, mais doit donner d'abord. Et tout cela parce que j'ai envie de plaire à Dieu. Pas parce que le pasteur l'a dit. Et d'ailleurs, ça c'est aussi... Alors maintenant, je me suis perdu avec le passage, mais peut-être que je vais m'y retrouver. C'est ce que dit aussi la parole de Dieu. Si tu donnes, donne avec cœur, avec joie. Si ça te fait mal, et donne rien. Le problème, c'est qu'après, toi, tu ne vas pas être béni, et puis l'Église. D'ailleurs, vous le verrez dans les notes, il y a une enquête mondiale qui a été faite dans les églises. Dans les églises, dans le monde entier, il y a à peine 10% des chrétiens qui vont régulièrement à l'église, hein, qui donnent vraiment leur dîme. Et ce qui apparaît, c'est que quand on fait le total de tous les revenus, de tous les salaires et les pension de retraite et toutes les allocations, tout ce que vous... Si on faisait le total de tout ce que nous avons gagné, là, c'est un peu compliqué à faire, mais ce serait intéressant. Non, je rigole. Mais quand on fait le total de tout ça, eh bien, les chrétiens aujourd'hui donnent, en général, qui viennent régulièrement à l'Église, c'est-à-dire vous et moi, je n'ai pas dit vous, je dis vous et moi, parce que je suis élégant hein, ce matin, hein, eh bien, nous donnons en tout 2,5% de nos revenus. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 10, on ne donne que 2,5. On est très, très, très en retard. Et ça, ce n'est pas que la communauté chrétienne du point du jour, c'est partout. Et c'est pour ça que nous avons vu hier à l'Assemblée générale que jusqu'à présent, par membre, chacun d'entre eux, alors là maintenant, bam, je tire, hein, avec le Kalachnikov, hein, allez-y, prenez-en. En venant ici, nous avons donné 55 euros par personne en moyenne. On veut augmenter à 75 pour pouvoir payer le pasteur. Mais Joël a donné l'exemple de l'église d'où Annick vient. Dans le Nord, c'est un pays pauvre, les mines, il y a beaucoup de chômage. Eux, ils en sont à 80 et quelques, 82, je crois, ou 85. Hein, donc, on peut absolument mieux faire. Mais c'est intéressant de... Alors, on met les chiffres comme ça. Hein. Bon, évidemment, comme nous allons bientôt laisser la place à notre pasteur, j'en profite pour dire, voilà le message que vous devez entendre. Et puis après, voilà. Parce que, chers frères et sœurs, si nous comprenons cela, que d'abord, ça doit être quelque chose qui vient de notre cœur, que ce n'est pas une loi, et qu'on ne sera pas dépouillé, mais béni au travers de ça. Si vous faites cela, chers frères et sœurs, vous allez voir comment le Seigneur va faire de grandes choses. Alors maintenant, j'aimerais vous lire, pour terminer, la dernière feuille. Longtemps, on a considéré que la dîme est une loi de l'Ancien Testament. Donner la dîme a un sens bien plus profond que d'obéir à la loi. C'est le moyen de dire à Dieu notre reconnaissance. C'est le moyen de dire à Dieu que nous reconnaissons que ce que nous avons nous a d'abord été. C'est le moyen d'exprimer notre confiance en Dieu. C'est le moyen de consécration absolue. C'est le moyen d'exprimer notre fidélité à Jésus. C'est le moyen de reconnaître que tout appartient à Dieu. C'est un moyen de reconnaître la seigneurie de Jésus dans ma vie. C'est le moyen de semer dans le royaume. C'est le moyen d'expérimenter la providence divine. C'est un moyen de sortir de la domination de la puissance de Mammon. Et la question que je te pose, pourquoi ne veux-tu pas donner ta dîme? Qu'est-ce qui empêche? Et pour terminer, le principe que nous retrouvons dans la Bible, c'est semer et récolter. Et ça, nous le trouvons dans les Corinthiens, je ne vais pas le lire parce que vous connaissez le verset. Mais si, maintenant, chers frères et sœurs, nous avons compris que la Bible nous dit, tu sèmes, tu vas récolter. Mais si tu sèmes sans le cœur, sème pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est intéressant de voir, après tous ces passages, Dieu, finalement, il nous demande notre cœur, et il a mis ce système de la dîme et de l'offrande, non pas pour qu'on ne soit pas content, non pas pour qu'on se sente, ça y est, c'est encore une histoire de fric, non, parce que c'est la vie de tous les jours, nous vivons avec les finances, avec un salaire, avec une retraite, nous avons entendu notre sœur qui a bien témoigné là-dessus, hein. Eh bien, chers frères et sœurs, écoutons ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église. Et faisons l'œuvre de Dieu au travers de ce que nous allons donner à Dieu. J'ai sauté ce passage, vous pourrez le voir, comment le chrétien utilise son argent en payant les impôts, en soutenant les aides humanitaires, en soutenant des ministères, en aidant les églises à être bâties, etc. Toutes ces choses, l'Église va pouvoir le faire. Et aussi, n'oublions pas, chers frères et sœurs, cette semaine, j'avais deux pasteurs amis suisses qui sont passés me voir. Je leur ai fait voir le local. Ils m'ont dit, là, vous avez un local comme en Suisse. Tout est beau chez vous. Et savez-vous pourquoi? Parce que les pères fondateurs de l'Église du Point du Jour ont donné. Ça n'a pas été avec des subventions de l'État. Ça n'a pas été parce que quelqu'un a gagné au loto. Ça a été parce qu'on s'est donné. Chers frères et sœurs, soyons des héritiers qui soient dignes de nos pères et continuons l'œuvre de Dieu et continuons à voir que l'œuvre prospère et faites confiance au conseil d'administration, il sait comment utiliser l'argent que vous donnerez pour la gloire du nom de Jésus. Amen.